Je me méfie toujours quand on parle de l'âme d'un pays, dans un livre, dans un discours ou à la fin d'un débat. Présidentiel, par exemple, l'âme de la France. Vous le savez aussi bien que moi, c'est compliqué. L'âme russe, n'en parlons pas. C'est un cliché, en fait, qui s'est forgé dans la grande littérature du 19e siècle et qui perdure, on sait pas très bien pourquoi. Peut-être pour maintenir une grandeur passée, justement, pour figer le temps et l'illusion d'une identité nationale, d'une mystique aussi floue que problématique. L'âme russe, on vous dira que ça ne se définit pas, mais que ça se ressent immédiatement. C'est la force, la compassion, la profondeur, c'est la souffrance inscrite au fond de soi, c'est l'impulsivité, le goût des extrêmes, le manque de mesure, l'inquiétude, l'angoisse, le désespoir, le sentiment exagéré du tragique de la vie. C'est une énigme, surtout. On parle d'ailleurs de la mystérieuse âme russe. Autant dire que c'est tout et n'importe quoi, un cliché que la littérature a élevé en fierté, mais dont le monde entier surtout s'est emparé pour se saisir d'un territoire si grand, si disparate, si complexe, qu'il y avait là une façon de se rassurer. Parler de l'âme d'un pays, c'est jamais innocent. Au pire, c'est coupable. Au mieux, c'est suspect. C'est une façon d'effacer tout ce qui sort du cadre, tout ce qui résiste à l'idée qu'on voudrait imposer. Mais ceux qui s'en méfient, qu'est-ce qu'on en fait ?
Boomerang.
Boomerang.
Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est l'un des grands noms de la littérature russe post-soviétique et une figure de l'opposition à toutes les dérives autoritaires. Depuis des années, elle est pressentie pour le Nobel de littérature. La France l'a découverte au milieu des années 90 pour son roman Sonietchka, qui lui valait le prix Médicis étranger. Le corps de l'âme, son nouveau livre, vient de paraître dans une très belle traduction de Sophie Benex. C'est une dizaine de récits crépusculaires et charnels à l'ironie mordante. Bonjour, Ludmila Ulitskaya.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y a de plus russe en vous ?
C'est
une excellente question pour une femme juive.
Être
russe, c'est avant tout, pour moi, appartenir à la culture
russe.
Et donc, les premiers livres sérieux que j'ai lus, ce sont les livres de Pushkin, de Dostoïevski, de Tolstoï. C'est la magnifique poésie russe. C'est à cela qu'on est biberonné dès la petite enfance.
Est-ce qu'être russe, Ludmila Ulitskaya, c'est aussi avoir une méfiance face au pouvoir? Je vous pose aussi la question parce que je vous ai entendu dire récemment que pour un intellectuel russe, ne pas aimer le pouvoir, c'était une situation ordinaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Vous avez tout à fait raison, c'est absolument ça. Je vous donne l'exemple de ma famille. Mon arrière-grand-père, et je me souviens de lui, c'était quelqu'un qui n'était pas riche, mais il n'était pas pauvre non plus. Il possédait un commerce, un petit commerce, comme il se doit pour un juif de la fin du 19e siècle.
Et
à l'époque, il était convoqué, bon, c'était pas le KGB à l'époque, mais bon, c'était comme ça une organisation. Et on le torturait, on le maltraitait pour lui soutirer de l'argent. Ensuite, mes deux grands-pères ont fait un petit tour derrière les barreaux. C'est une histoire qui n'est pas particulière à ma famille. Il y a parmi mes amis très peu de familles qui n'ont pas de détenus politiques parmi leurs membres.
Ça veut dire que vous, Ludmila Ulitskaya, le pouvoir, vous l'avez toujours eu en grippe?
Absolument. Depuis toujours.
D'ailleurs, qu'est-ce qui distingue pour vous le pouvoir soviétique du pouvoir tel qu'il est incarné par Vladimir Poutine depuis plus de 20 ans?
Alors,
à vrai dire, je ne vois pas grande différence. Parce que la répulsion que je ressens vis-à-vis de tout pouvoir, c'est quelque chose que j'éprouve depuis que je me connais moi-même, depuis toute petite. Et je me rappelle très bien du jour où, à l'âge de 10 ans, à l'école, j'ai entendu l'annonce de la mort de Staline. Tous les enfants se sont mis à pleurer. Et les adultes également. La directrice sanglotait, les professeurs. Moi, j'étais dans un coin et je sentais que je n'avais absolument aucune, mais aucune envie de pleurer.
Et c'est depuis,
comme ça que je vis ma vie. Tout le monde pleure et moi, je n'ai pas envie. Tout le monde applaudit et moi, je n'ai pas envie non plus.
D'applaudir.
Et quelquefois, tout le monde rit et moi, je trouve que ça n'a rien de drôle. Je pense que c'est cela qui fonde mon travail d'écrivain.
Précisément, en tant qu'écrivain, dans quelle mesure est-ce que vous avez fait l'expérience de pression de la part du pouvoir ? Est-ce que vous êtes libre d'écrire et de publier ce que vous voulez ?
Dans ma vie, en Russie, à cause des, ou pour des raisons liées à la censure, je n'ai corrigé qu'un seul mot de toute mon œuvre. C'était un mot très grossier et que j'ai dû remplacer par un mot très légèrement moins grossier.
Ça veut dire, Ludmila Ulitskaya, qu'en Russie, la parole de l'intellectuel, de l'écrivain, de l'artiste compte désormais si peu qu'elle n'est même plus en mesure d'inquiéter le pouvoir ?
Vous avez tout à fait raison. Il y a un contrôle des médias qui est extrêmement dur, extrêmement verrouillé. Mais il y a en même temps une indifférence en ce qui concerne l'écriture.
Et comment vous l'avez vu évoluer justement ce statut de l'artiste au fil des années ? À quel moment ça a changé ?
La Russie, c'est un pays qui est centré sur la littérature. On a presque eu la tendance à exagérer depuis toujours le rôle d'un écrivain.
Et donc,
pour la Russie, l'opinion d'un Tolstoï, d'un Dostoïevski, c'était quelque chose qui passionnait la société. On lisait leurs articles, on les analysait, on en débattait dans les journaux. On en faisait un écho et très très large dans les médias y compris. Je pense que ça s'est terminé en Russie à peu près vers les années 30 du XXe siècle. À partir du moment où on a commencé à mettre les écrivains derrière les barreaux, en réalité. Ceux qui ne voulaient pas se taire ont disparu. Purement et simplement. Ceux qui étaient d'accord pour se taire n'étaient plus, ne représentaient plus un danger pour l'État, en réalité.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette grande littérature russe ?
Je pense qu'elle n'est pas morte, hein, la littérature russe. Il y a des jeunes talents littéraires en Russie. Il y a des poètes merveilleux. Et je pense qu'il y a un phénomène assez intéressant qui a lieu en ce moment. Plus le pouvoir est dur et sans pitié, et plus c'est, et je vous demande de me pardonner pour ça, plus c'est utile et profitable pour la littérature.
Vous savez, Ludmila Ulitskaya, je pense à cette expression un peu grossière, qui est un cliché, celui de l'âme russe. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? À quoi ça renvoie ? Et qu'est-ce qui fait de l'âme russe un concept un peu obsolète ?
Безусловно, безусловно, безусловно. Vous savez, c'est un следствие.
Il s'agit d'une conséquence de l'intérêt des Russes, du peuple russe pour lui-même.
Il y a eu
un certain autocentrisme. Il y a eu une période dans l'histoire
où
la Russie pensait qu'elle était à l'avant-garde de l'humanité et se sentait de cette manière-là.
Il a fallu
qu'il se passe beaucoup d'années de déception. Pour que l'on comprenne que nous ne sommes pas du tout à l'avant-garde de l'humanité, mais malheureusement, plutôt tout derrière à la queue, malheureusement.
Pourquoi je vous parle d'âme russe ? Parce que cette idée de l'âme, vous l'interrogez dans votre livre qui s'appelle « Le corps de l'âme », Ludmila Ulitskaya. Au fond, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'âme d'une personne ?
Alors moi, au départ, je suis de métier une généticienne. Et donc, ce qui est très important pour moi, c'est où on s'enracine ? Qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? Quelle est notre hérédité, si vous voulez ? Cette hérédité, c'est à la fois l'hérédité génétique au sens premier du terme, au sens littéral, notre ADN, si vous voulez. Mais en même temps, c'est notre héritage, notre patrimoine culturel.
Et
ces deux aspects de l'héritage composent un peuple, n'importe quel peuple, tout peuple, non seulement le peuple russe.
Au fond, pour vous, qu'est-ce qui fait la beauté d'une âme ?
Alors,
un mouvement de l'âme spontané, ce n'est pas quelque chose que l'on observe très souvent.
Мы наблюдаем его в театральном зале.
Nous l'observons dans une salle de théâtre lorsque des personnes applaudissent spontanément une pièce merveilleuse. Nous pouvons l'observer dans un stade.
Последнее такое наблюдение у меня было связано с
Dernière observation pour moi concerne la ville de Berlin. Récemment, je veux parler de l'endroit où l'on accueille les réfugiés ukrainiens à Berlin. Les habitants de Berlin sont venus pour, si vous voulez, faire le triage, pour accueillir les personnes. Parfois une journée, parfois deux jours, parfois une semaine, avant que les personnes soient envoyées ou logées ailleurs. Et moi, j'ai été extrêmement touchée par cette situation.
On va en reparler, évidemment, après l'âme de cette émission, la culture et son actualité, ô combien spirituelle, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 21 avril ?
Bienvenue au Louvre. Au fil d'Oslo, jusqu'au 8 mai, le musée du Louvre à Paris présente Les Mondes animés de Michel Oslo, une grande rétrospective des films du créateur de Kirikou, Prince et Princesse ou d'Ilili à Paris. L'événement nous plonge dans l'univers magique et foisonnant du maître français de l'animation et propose même de découvrir Pharaon, un court-métrage inédit du cinéaste réalisé à l'occasion de l'exposition Pharaon des Deux Terres, l'épopée africaine des rois de Napata, prévue pour le 28 avril prochain.
Je m'appelle William Acker, j'ai 29 ans, je suis juriste et je travaille autour de la question de l'accueil des gens du voyage.
Air du temps, l'essayiste William Acker vient de recevoir le prix du livre d'écologie politique pour son ouvrage « Où sont les gens du voyage ?» paru aux éditions du Commun, proposant un recensement géosociologique des aires d'accueil du territoire français. Le texte déploie une réflexion inédite sur la ségrégation et l'invisibilisation d'une partie de la population à la lumière d'enjeux écologiques fondamentaux comme l'habitat précaire ou la pollution environnementale. Figurez-vous qu'une étude universitaire allemande est arrivée à la conclusion que les chirurgiens seraient plus précis et plus rapides lorsqu'ils écoutent AC/DC ou les Beatles pendant les opérations. Selon les résultats de l'expérience, manier le scalpel avec Highway to Hell à fond dans les oreilles permettrait d'augmenter la précision des interventions de 5%, tandis qu'avec Hey Jude ou Let It Be des Fab Four, c'est la rapidité d'exécution qui serait doublée.
Bonjour Nathalie, viens chercher le livre que je t'ai commandé.
Oui.
Et enfin, week-end à la page, alors que dès demain, dans toute la France, la fête de la librairie indépendante inaugurera sa 24e édition à Paris. C'est le Festival du Livre, anciennement Livre Paris, qui s'installera au Grand Palais éphémère pour un week-end pluvieux, mais studieux. Au programme de la manifestation dont France Inter est évidemment partenaire, 500 auteurs, une centaine d'événements et un focus littéraire sur l'un de ses écrivains, avec notamment Arundhati Roy et Salman Rushdie. C'est un grand oui. La grande écrivaine russe Ludmila Ulitskaya, invitée de Boomerang ce matin, et comment ne pas vous interroger sur cette guerre ? Où étiez-vous lorsque vous avez appris l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Ludmila ?
Je me trouvais chez moi à Moscou.
Et
j'ai réalisé que ce 24 février, c'est le jour dont on pourra dire qu'il y a eu un avant et un après.
Был произведен очень жесткий рубеж.
Il y a eu un trait qui a été tracé entre hier et aujourd'hui.
À quel moment est-ce que vous avez décidé de quitter Moscou ?
Vous savez, честно говоря, я никакого решения.
À vrai dire, je n'ai pris aucune décision. Mon fils aîné est arrivé chez moi. Il est très musclé, il peut être très efficace quand il veut. Et donc il a dit vite, vite, fais ta valise. Il nous a amenés à Berlin.
Qu'est-ce que vos amis ou certains de vos proches qui sont restés en Russie vous racontent de ce qui se passe là-bas, des conditions de vie, de l'état d'esprit des gens ?
Je dois vous avouer que toute ma famille a quitté la Russie. Donc en Russie, il ne me reste plus que des amis. Je n'ai plus de famille. Ma meilleure amie, Diana, court partout, du matin au soir, va chez des amis, des vieux amis. Elle court et elle porte du pain à l'un, de la crème fraîche à l'autre, un petit bout de poisson au troisième. Donc elle essaie d'aider toutes ces personnes âgées, ses amis. Et ça, c'est probablement le plus grand trésor de ma génération. Des liens d'amitié qui sont inextricables.
Vous qui êtes une artiste, une intellectuelle et une figure figure quand même de la dissidence, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? À l'heure où la guerre est entrée dans une nouvelle phase, je pense aux bombardements, aux attaques sur le Donbass, de plus en plus violentes.
Установка моя такая, что я должна улыбаться.
Mon objectif, c'est de sourire, mais à l'intérieur, je pleure.
Ludmila Ulitskaya, vous vivez aujourd'hui en Europe, vous le disiez. Quel lien très étroit est-ce que vous entretenez avec ce continent, l'Europe, et particulièrement avec la France?
Non, vous savez, дело в том, что мои книги Франция для меня очень.
Il faut dire que la France, en ce qui concerne la littérature, est un pays qui m'a apporté beaucoup et beaucoup de succès, si vous voulez.
По-моему, это была первая страна.
Je pense que ça a été le premier pays où j'ai été traduite.
Et c'est
les éditions Gallimard qui sont le rêve de n'importe quel écrivain au monde. Mes livres sortent la même année ici qu'en Russie. J'ai une traductrice exceptionnelle, la même depuis des années. Elle est devenue un membre de notre famille, Sophie Benesch.
Je pense évidemment à votre premier roman, Sonietchka, qui est sorti en France avant même d'être édité en Russie. C'était en 1996, ce premier roman qui racontait l'histoire d'une femme simple, d'une grande lectrice qui reste heureuse malgré les circonstances. De quoi il est né? Vous vous souvenez?
Vous savez, дело в том, что в жизни европейского человека,
dans la vie d'un Européen et d'un Russe aujourd'hui également, il y a beaucoup de joies diverses et variées, beaucoup de plaisirs divers et variés. En Russie, à l'époque de ma jeunesse, il n'y avait qu'une seule joie et qu'un seul plaisir, c'était le plaisir de la lecture.
Oui, et c'est vrai qu'il y a chez vous toujours ces grandes déclarations d'amour à la littérature et à la lecture. Ludmila Ulitskaya, je pense aussi à un autre de vos romans qui s'appelle Le Chapiteau Vert. Au fond, quelle lectrice est-ce que vous êtes, vous?
Vous savez, je suis une mauvaise lectrice. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Et
très récemment, j'ai pensé que je lis très rarement les nouveautés qui sortent. Je n'aime que relire ce que j'aime déjà. J'aime revenir à Tolstoï, sans cesse, par exemple, à Pushkin, à sa prose en particulier. Et à chaque fois, je comprends qu'il y a une lecture qui ne fait que s'enrichir au fur et à mesure des répétitions. Il y a tellement de strates dans cette littérature-là. Ou peut-être que nous-mêmes, nous grandissons, nous évoluons, et donc nous comprenons mieux certaines choses.
Il reste quoi, je me suis demandé, de la scientifique, de la biologiste généticienne, dans l'autrice que vous êtes devenue aujourd'hui?
Vous savez, la façon dont mon œil est organisé et la façon dont il voit le monde.
Une attention particulière aux détails, à l'infiniment petit.
Effectivement, la première chose que j'ai appris à faire à 18 ans, c'est à regarder dans un microscope, améliorer la netteté de ce que je vois. Il y a beaucoup de méthodes biochimiques que j'ai appris à maîtriser au fur et à mesure de mes études. Parce que, bien sûr, tout cela, c'était l'étude de la vie, l'analyse de la vie.
Et
si aujourd'hui, je devais choisir un métier, je pense que j'aurais de nouveau choisi le métier de généticienne.
Au fond, qu'est-ce qui fait toute la complexité du travail de l'écrivain? Vous qui dites volontiers que l'écriture, ça va pas de soi. C'est pas toujours un refuge. C'est complexe.
Parfois, on sent qu'une phrase n'est pas debout sur ses deux jambes, qu'elle est en train de s'écrouler, de s'effondrer.
Alors,
tu regardes cette phrase et tu te dis, comment est-ce que je vais la mettre sur pied? Comment est-ce que je vais la faire exister dans la réalité? Il est très difficile pour moi de l'expliquer, mais mon mari, par exemple, il est artiste aussi, il est peintre. Et je vois comment il travaille, je le vois peindre. Je le vois parfois s'éloigner, ensuite se rapprocher pour faire juste une petite touche de pinceau. Et je pense que c'est ce type de travail-là.
donner la vie. Merci de le faire pour nous, Ludmila Ulitskaya. On va en reparler de corps et d'âme, juste après Tori Amos, qui reprenait Losing My Religion de R.E.M. en 1995. C'est peut-être l'une des plus belles versions qui soit. Vous êtes sur France Inter avec la grande romancière russe Ludmila Ulitskaya. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Me and the gold now. Me and the spotlight. Losing.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
C'est frappant, c'est même assez troublant, mais si ça se trouve, c'est la cousine germaine d'Arem Nouchkine. Elle a le cheveu grisonnant un peu plus court, pas de chichi, un regard doux où flotte quelque chose qui ressemble à de la mélancolie, avec son grand pull blanc et son foulard, ses boucles d'oreilles bleues. L'autrice russe, la grande écrivaine Ludmila Ulitskaya, invitée de Boomerang ce matin pour revenir sur toute une œuvre littéraire, mais aussi sur une vie. En Russie, vous qui êtes née en pleine Seconde Guerre mondiale, de cette guerre, qu'est-ce qu'on vous a raconté? Quel récit vous en a-t-on fait?
Je suis née au moment où ma famille était évacuée et se trouvait dans l'Ural. Les premiers récits concernant ma petite enfance, ce sont les récits de ma mère et de ma grand-mère. Et je me souviens très bien d'une histoire que m'a racontée ma mère. Elle est montée dans un train lorsqu'elle revenait de l'évacuation. Elle retournait à Moscou depuis l'Oural. J'avais 9 mois. Ma mère était en train de m'allaiter. Ma mère a voyagé pendant 4 jours sans disposer de nourriture avec un nourrisson.
Il y a ce livre qui s'appelle « Détritus sacré » où vous racontez votre enfance, Ludmila Ulitskaya, et où vous vous décrivez comme la dernière juive d'une famille assimilée. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je dois vous dire, tout d'abord, que tous mes petits-enfants n'ont qu'un quart de sang juif, et c'est le mien.
Потому что сыновья женились.
Parce que mes enfants, mes filles sont épousées. Des Russes, des Ukrainiennes.
Женщинах и в общем.
Des femmes aux racines russes et ukrainiennes. Donc le sang juif se dissout petit à petit dans notre famille.
Я очень рада, что немножечко остается.
Moi je trouve de la joie dans le fait qu'il en reste une quelques gouttes quand même.
Понимаете, дело в том, что в сегодняшнем мире не так уж много древних народов.
Dans le monde d'aujourd'hui, il y a pas tant que ça, il n'y en a pas tant que ça de peuples si anciens qui ont une histoire vieille de plus de 5000 ans.
Это евреи, армяне.
Ce sont les Juifs, ce sont les Arméniens.
Поэтому пусть живут.
Donc je suis contente qu'ils survivent.
Évidemment, pour vous avoir lu, Ludmila Ulitskaya, je pense à votre grand-mère, parce qu'il paraît que c'est elle qui vous a donné envie d'écrire.
Vous savez, бабушка моя была человеком пишущим.
Ma grand-mère était une personne qui écrivait.
Ой, к сожалению, плохо.
Alors, malheureusement, très mal.
Потому что довольно бедная семья.
C'était une petite fille qui venait d'une famille assez pauvre.
С очень маленьким образованием начальной школы.
Elle n'avait que les quelques classes d'une école primaire comme éducation.
Et она всю жизнь училась.
Et toute sa vie, elle a continué d'apprendre, de se former.
У меня с ней не были особенно хорошие отношения.
Je n'en étais pas particulièrement proche. Nos relations n'étaient pas du tout repos.
Эта бабушка, она была таких очень большевистских.
Parce que cette grand-mère, c'était une bolchevique. Donc il y avait cette sorte de romantisme révolutionnaire qui l'habitait.
Vous savez, ce qui m'intéresse dans votre littérature, c'est la place très forte des femmes, justement. Et vous dites parfois que les femmes font de bons personnages, qu'elles sont de meilleure qualité que les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ?
Il faut savoir que nous vivons en Russie, nous sommes en Russie. La Russie, c'est un pays exclusivement féminin, je dirais. Même en termes démographiques. Avant tout en termes démographiques d'ailleurs.
En Russie, расхода мужского населения.
Il y a trois
Война.
Sortes d'événements qui tuent les hommes.
Тюрьма.
C'est la guerre, c'est la prison,
алкоголизм.
Et c'est l'alcoolisme.
Это приводит к тому, что это типология всеобщая. Женщина рожает, воспитывает детей.
Un certain modèle, si vous voulez, de fonctionnement. La femme accouche, elle élève les enfants, elle s'occupe des enfants, et l'homme apporte
в России не работает.
Les sous. Mais ça ne fonctionne pas en Russie.
Русская женщина.
La femme russe, elle fait
она
pas comme ça.
Рожает детей,
elle accouche,
она их кормит,
elle nourrit les
она
enfants,
их воспитывает,
elle les élève.
Et она ещё воспитывает их детей.
Et elle élève aussi leurs enfants.
Alors ce qui est intéressant, c'est que dans votre discours, la femme russe est du côté de la vie, et pourtant dans le corps de l'âme, les femmes qui peuplent vos histoires sont presque toutes confrontées à la mort. Je me suis demandé qu'est-ce que ça représente pour vous, la mort, Ludmila Ulitskaya.
А что такое значило бы жизнь,
Alors,
если бы не было?
Que signifierait la vie s'il n'y avait pas la mort?
Смерть. Это тот инструмент, который нам позволяет видеть жизнь.
C'est l'instrument qui nous permet de percevoir la vie, de l'aimer, de l'apprécier à sa juste valeur, d'en jouir.
Перспективу жизни, перспективу
зрения. Permet de créer la perspective qui nous permet de voir la vie.
Et après la mort, que deviennent les âmes? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose en lisant votre livre.
Ну, вы знаете, я человек верующий.
Il faut que vous sachiez que je suis quelqu'un de croyant. Et je pense que quelque chose nous attend, quelque chose que nous ne pouvons pas deviner ou décrire. Et l'image principale qui me vient et que je conserve dans mon esprit, c'est que l'on nous met dans une sorte d'espace, dans un espace, pour que l'on accomplisse une tâche. De prédestination, si vous voulez. Et en fonction de comment on accomplit ce travail, notre âme avance quelque part. Elle va quelque part, mais on ne sait pas très bien où.
Alors où elle va, la vôtre ? Vous avez fini par le savoir ? Quelle était votre mission et comment l'avez-vous remplie ?
Je travaille.
En tout cas, moi, je travaille.
У меня есть некоторые подозрения относительно
J'ai certains soupçons quant à l'avenir, mais je ne les partagerai pas ici avec vous aujourd'hui.
À quoi, et c'est ma dernière question, est-ce qu'on donne corps ou âme quand on écrit un livre ?
Вы знаете, наверное, это попытка создать какую-то другую реальность.
Il s'agit d'une tentative de créer une autre réalité, non pas celle que nous habitons,
да, а ту, которую мы бы хотели видеть.
Mais celle que nous voudrions voir
это
exister.
Такая игра в жизнь.
C'est une sorte de jeu où on joue à la vie. À créer
это
une
шахматы,
vie.
Которые стоят перед
C'est
каждым
une partie d'échecs que joue chaque écrivain.
С такими возможностями ходов, avec, которые жизнь нам не предлагает.
Avec des possibilités de faire des mouvements que la vie réelle ne nous propose pas ou ne nous offre pas forcément.
Et quel travail, quelle joie de vous lire. Merci infiniment, Ludmila Ulitskaya, d'être venue faire un tour dans cette émission. Et merci à votre interprète ce matin, Alissa Katz. Je rappelle que Le corps de l'âme est publié chez Gallimard dans une traduction de Sophie Benesch. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villa et son instant M, juste après ça.
Sur mon écran tactile, que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile, que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu vieux monde adoré, adieu vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise. Où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise. Où suis-je sur la toile? Ah ouais. Je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il? De cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il? Celui auquel on sacrifie. Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile.
Au liquide, feu Chatterton, il est 9h40 sur France Inter. Et c'est l'heure de Sonia De Villers, l'instant M.
Alors Augustin, moi je vous embrasse et je vous félicite parce que Boomerang, c'est des beaux chiffres, c'est une belle réussite, c'est toujours autant de fidèles et ça me fait très plaisir. Voilà.
Vous me
et comme
beaucoup.
On partage cette heure tous les deux. Voilà.
Bravo à vous aussi.
Allez, salut Augustin, à demain.